c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers et Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix, bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine, avec une invitée qui s'appelle
Cindy.
Sylvie. Bienvenue Sylvie. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler d'une date, 1492, mais oui, en 12 octobre. 1492. Ensuite, nous allons parler de Guatemala et aussi d'un grand artiste peintre équatorien. Et nous, si nous avons le temps, nous allons parler un peu de tourisme. Donc, pour oublier toutes les tragédies, les problèmes de par le monde, on va sortir un peu de ce monde vraiment très bouleversé. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de ce 1492.
Oui, il s'agit l'invention d'une culture. De l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique à l'exécution de Tupac Amaru en 1572, le dernier empereur inca, presque un siècle s'est écoulé, durant lequel, de la découverte à la conquête, l'ordre du monde a été bouleversé. D'un côté, les héros de la première heure, navigateurs, chroniqueurs, conquistadors. De l'autre, une Amérique bafouée. Massacres, épidémies, ravages écologiques. Face aux Indiens hautement civilisés qui attendaient un autre, l'Europe en gestation, qui venait d'expulser les Juifs et de convertir les Morisques, voulait trouver un double. C'est ce choc inévitable, cette interprétation des civilisations qu'on aborde avec, au centre de l'occidentalisation progressive du monde, le personnage mythique de Christophe Colomb, amiral de la mer Océane, lequel a permis le passage décisif de l'expérimentation à la réalité. Régis Debray écrit dans Christophe Colomb, le visiteur de l'Aube, que Colomb reconnaît plus qu'il ne découvre. Il ne fait que confirmer ce que les textes anciens, les mythes, les légendes ont déjà affirmé. Les Indes étaient attestées avant que d'être atteintes. Elles étaient dans Homère, les îles Fortunées, dans Platon, l'Atlantide. Il cite Plutarque, Pline. Quand on avait des lettres, on ne pouvait pas ne pas connaître l'Amérique. En 1492, Guanahani. Il tombe à genoux, il embrasse le sol. Il s'avance en chancelant car cela fait plus d'un mois qu'il dort peu ou point. Puis, il déploie l'étendard royal. Agenouillé, les yeux au ciel, il prononce trois fois les noms d'Isabelle et de Ferdinand. Près de lui, le notaire de l'expédition dresse l'acte de possession. À partir d'aujourd'hui, tout appartient à ces rois lointains. La mer de corail, les plages de sable, les rochers que la mousse verdit, les forêts, les perroquets et ces hommes à la peau couleur de laurier qui connaissent pas encore l'habillement, la faute ni l'argent et qui, stupéfiés, contemplent la scène. D'où vient l'or que vous portez pendu au nez et aux oreilles ? Les hommes nus le regardent, bouche bée, et l'interprète s'excuse devant Christophe Colomb. Colomb jure en génois et jette à terre ses lettres de créance. Les hommes nus assistent à la colère de l'étranger aux cheveux roux qui porte une cape de velours et des atours resplendissants. Dans les îles, un cri ne va pas tarder à se propager. « Venez voir les hommes qui viennent d'arriver du ciel. Apportez-leur à manger et à boire. » Ce récit est dans la Découverte de l'Amérique, journal de bord 1492-1493, cité par Eduardo Galeano dans « Mémoire du feu ».
Oui, c'est intéressant comme on décrit l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques, comme on les appelait les Indiens, en fait, c'est pas... Parce que Christophe Colomb a cru jusqu'à sa mort qu'il avait découvert l'Inde. C'est de là que vient le nom indien pour les Indiens des Amériques. Mmh. Voilà. Et Christophe Colomb, il ne faut pas l'oublier, il est d'origine italienne, il est né à Gênes en 1451, il est décédé à Valladolid en 1506, à 50 et quelques années. Pauvre, presque dans la misère et oublié. Et n'oublions pas que de sa 14e année commença une carrière de marin et à l'école nautique à Portugal. Et il est allé en Angleterre, en Irlande. Et il avait essayé de demander l'aide au roi de Portugal et cette aide a été refusée. En 1485, il décide de passer en Espagne. Et encore là, les rois l'ont refusé de l'aider. Mais à ce moment-là, il écrit au roi de France et d'Angleterre. Mais finalement, il a passé un contrat avec l'Espagne. Mais ce n'est pas l'Espagne, c'est Castilla, avec la reine, pas avec Ferdinand, qui a passé ce contrat. Donc c'est la reine de Castille, d'Espagne, qui a signé un contrat avec Christophe Colomb. Et on passe toujours l'Espagne, non ? C'est parti l'Espagne. Et il partit avec trois caravelles, donc la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Il part de Palos, le 3 août 1492. Et pendant son voyage, les marins commençaient à s'énerver parce qu'ils ne voyaient pas où ils allaient partir. Il y a eu deux mutineries. Deux. Finalement, le 2 octobre, un jour comme aujourd'hui,
12 octobre,
en 1492, Rodrigo de Triana, qui était dans le haut des mastiles, comment on dit ?
Le haut de la... Le bestin, je ne sais pas comment on appelle ça, moi, le haut du mât.
Des mâts, voilà, en haut, il crie « Tierra, Tierra !» Voilà, donc c'est là qu'il arrive à Guadani, et maintenant ça s'appelle San Salvador. Et donc nous évoquons cette histoire de 12 octobre 1492. Mais au sujet justement de ces découvertes, entre guillemets, des Amériques, il y a un poète, le poète prix Nobel Pablo Neruda, qui a écrit un poème en prose qui s'appelle Les mots, las palabras. En français d'abord.
Oui, un tout petit extrait.
Un extrait de ce poème.
Tout est dans le mot. Une idée entière se modifie parce qu'un mot a changé de place. Oh, quelle est belle ma langue! Oh, qu'il est beau ce langage que nous avons hérité des conquistadors! Il s'avançait à grande enjambée dans les terribles cordillères, dans les Amériques mal léchées, cherchant des pommes de terre, des haricots, du tabac noir, de l'or, du maïs, avec cet appétit vorace qu'on n'a plus jamais revu sur cette terre. Ils avalaient tout, ses religions, ses pyramides, ses tribus. Là où ils passaient, ils laissaient la terre dévastée. Mais il tombait des bottes de ces barbares, comme des cailloux, les mots lumineux, la langue. Nous avons perdu, nous avons gagné. Ils emportèrent l'or et nous laissèrent l'or. Ils emportèrent tout et nous laissèrent tout. Ils nous laissèrent les mots.
Voilà, merci Béatrix. Et ça, donc j'insiste, c'est un extrait, mais maintenant c'est en espagnol, las palabras. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores! Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se le caían de las botas como piedrecitas las palabras luminosas que se quedaron resplandeciendo. El idioma, salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Musique des Andes, avec les Andiens, entre guillemets, qui ont reçu les bras ouverts à Christophe Colomb. Et nous allons parler maintenant de Guatemala. N'oublions pas, vous êtes à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Au Guatemala, les choses ne vont pas très bien, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, il y a une crise politique. Le candidat Bernardo Arévalo élu en août dernier, dénonce un coup d'État en cours et appelle à la résistance. Le candidat progressiste victorieux de l'élection présidentielle accuse les représentants des intérêts de l'élite politique et économique de chercher à déstabiliser la transition du pouvoir, suscitant des manifestations de soutien à travers le pays. Pas encore président et déjà victime d'un coup d'État ? C'est ce que dénonce Bernardo Arévalo, le candidat progressiste vainqueur du second tour de l'élection présidentielle d'août dernier au Guatemala. Un groupe de politiciens et de fonctionnaires corrompus refuse d'accepter les résultats. Ils ont mis en place un plan pour briser l'ordre constitutionnel et bafouer la démocratie, a déclaré ce sociologue de 64 ans, sorti gagnant des urnes avec un programme de centre-gauche et la promesse de mettre un coup de balai anticorruption dans un des pays les plus inégalitaires et corrompus d'Amérique latine. L'appareil judiciaire est utilisé pour violer la justice elle-même. Un coup d'État est en cours, a-t-il fustigé, avant de nommer directement plusieurs hauts fonctionnaires à la manœuvre. Élu avec 59% des suffrages contre 36% pour la candidate du parti conservateur, Bernardo Arévalo peut compter sur le soutien de larges secteurs de la population pour défendre le résultat des urnes.
Oui, il y a un côté historique au sujet du Guatemala, n'est-ce pas?
Oui, un petit peu d'histoire, oui, concernant Jacobo Arbenz, renversé par la CIA.
Et quelle année, 1950?
En 1950, au Guatemala, le président Jacobo Arbenz avait réalisé des réformes très progressistes. En effet, il y avait là-bas un mouvement important de réformes agraires. On avait distribué aux paysans les terres des grandes plantations de bananiers, exploité par une importante firme transnationale nord-américaine. C'est alors qu'en 1954 que les militaires firent un coup d'État avec le soutien des États-Unis. La réforme agraire fut interrompue sur le champ. Il régnait alors sur tout le continent américain en ce début de guerre froide un très violent anticommunisme attisé par les États-Unis. À l'époque, parler de réforme agraire valait d'être immédiatement taxé de communiste. Au Guatemala, Jacobo Arbenz avait osé faire une telle réforme et comme partout, les puissants ont très vite commencé à s'y opposer. Les Nord-Américains et leurs institutions spécialisées ont immédiatement organisé des actions contre-révolutionnaires pour renverser Arbenz, président élu. Un certain Che Guevara se trouvait au Guatemala où il allait connaître la mère expérience du renversement de Jacobo Arbenz.
Oui. C'est curieux comme il y a des similitudes. Et déjà la CIA, en 1950, Béatrix.
Oui, en 1950.
Et en 1973, oui. Et contre les soi-disant les communistes, et l'intervention de la CIA. Et il faut préciser que Bernardo Arévalo, qui a été élu, donc il est attaqué un peu partout, mais il suit les pas de son père, Juan José Arévalo, premier président démocratiquement élu au Guatemala, en fonction entre 1945 et 1951. Ce dernier avait été contraint à l'exil après le coup d'État organisé par la CIA en 1954. De ce fait, Bernardo Arévalo est né en Uruguay, donc l'actuel qui a été élu, et non au Guatemala, ce qui a donné matière à de nombreuses attaques contre lui lors de la campagne. Vous voyez donc que c'est ça le problème avec les habitants de Guatemala qui ont beaucoup souffert des grands propriétaires terriens et aussi des élites politiques et économiques. Mais nous allons écouter de la musique venue directement de Guatemala.
Thank you.
Voilà, musique de Guatemala, directement venue de ces pays d'Amérique centrale. Et maintenant, nous allons parler d'un grand peintre équatorien, Osvaldo Guayas Amin, n'est-ce pas?
Oui, c'est une fondation qui a été créée avec l'aide de la France en 1976. Et c'est un Équatorien.
Oui.
Nous sommes à Quito, capitale de l'Équateur, sur la côte de l'océan Pacifique. En face, ce sont les îles Galapagos. C'est un journaliste de Sud-Ouest qui dit ça. Socato. Osvaldo Guayas Amin, Quito, juillet 1919-mars 1999, est un artiste équatorien de la seconde moitié du XXe siècle. Fortement inspiré par les arts sud-américains, il consacre une grande partie de sa vie à peindre la misère, l'exploitation, l'oppression, la dictature et le racisme. On le considère comme un peintre expressionniste du réalisme social. Guayas Amin est l'un des grands maîtres de l'art équatorien. Fils d'un père amérindien et d'une mère métisse, sa vocation artistique apparaît de façon précoce. Très jeune, il vend déjà ses peintures sur la place de Quito. Bien que sa famille soit très humble et que son père s'occupe à ses études à l'école des Beaux-Arts, il n'y entre qu'en 1932. Il organise sa première exposition en 1942, à l'âge de 23 ans, dans sa ville natale. Nombre de ses toiles sont alors achetées par Nelson Rockefeller, qui restera l'un de ses mécènes. Cette même année, il voyage au Mexique, où il fait la connaissance du muraliste José Clemente Orozco et devient l'un de ses disciples. Lié au fresquiste mexicain par la profondeur autochtone, le peintre cherche ses racines dans la terre et dans le peuple. Plus qu'au passé, il s'intéresse à l'âme de l'Équateur qu'il traverse de part en part dans la série des mains. Guayas Amin entreprend des voyages et séjourne dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, ce qui lui permet de dénoncer la situation déplorable de la population indigène. Plusieurs de ses sculptures monumentales en bronze sont réparties dans le monde entier. En 1992, il reçoit le prix Eugenio Espejo, le plus grand prix accordé par le gouvernement de l'Équateur. Il inaugure personnellement ses dernières expositions au Palais du Luxembourg, à Paris, en 1995. Il meurt le 10 mars 1999 à Baltimore, aux États-Unis.
Merci, Béatrix. Mais le temps passe tellement vite, donc nous allons aborder un sujet. Nous allons vous faire voyager au Mexique, une ville qui s'appelle Oaxaca.
Oui, Oaxaca, la pépite du Mexique. À proximité du fantastique site archéologique du Monte Albán, l'ancienne ville coloniale charme par ses églises baroques, ses musées et ses artisans de talent. Au kilomètre carré, Oaxaca est l'État qui possède la plus grande biodiversité du Mexique et la plus grande concentration de groupes ethno-linguistiques en Amérique. Se félicite Érico Juárez, professeur d'agronomie et guide touristique du jardin ethno-botanique d'Oaxaca, parc de 2,3 hectares qui jouxte un centre culturel rempli de trésors zapothèques et une église baroque exceptionnelle. Cet ensemble résume bien la richesse d'Oaxaca, capitale de l'État du même nom, située à 500 km au sud-est de la capitale, Mexico, dans la vallée de la Sierra Madre del Sur. Fondée en 1529 par les Espagnols, la ville de 300 000 âmes cumule les avantages. De taille modeste, elle est accueillante pour les touristes qui s'y sentent en sécurité et découvrent un décor de cartes postales classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur la place Socalo, tous les habitants se mêlent. À l'ombre de lauriers, des hommes lisent le journal, des écoliers en uniforme se poursuivent autour du kiosque à musique. En centre-ville, on y trouve des vêtements folkloriques, des chapeaux en paille tressée, des mangues, diverses sauterelles déshydratées et toutes les nuances de piment. Le Centro culturel Santo Domingo est aussi impressionnant pour la sobriété de son bâtiment en pierre blanche que pour le foisonnement d'objets qu'il présente. Après la bibliothèque de livres anciens aux reliures d'or, Un escalier mène aux 14 salles présentant les cultures précolombiennes dans l'état d'Oaxaca. Difficile de s'en passer de la salle 3, consacrée au trésor de la tombe 7 de la zone archéologique de Monte Alban, avec ses 3,5 kg de parures en or, ses os de jaguar ciselés et son crâne humain recouvert d'une mosaïque de turquoise. Il est très tentant de flâner toute la journée en ville. Mais il faut savoir s'arracher à la douceur d'Oaxaca et parcourir, en taxi ou en bus, les 10 km de route pour rejoindre Monte Alban, le site archéologique le plus important de la culture zapothèque. La cité ressemble à un gigantesque vaisseau spatial, avec ses pyramides à degrés, ses temples et ses stèles sculptées. En échantillon de l'artisanat de Teotihuacan del Valle, à 30 km d'Oaxaca, est aussi visible en plein centre d'Oaxaca. On cherche à mettre en valeur les savoir-faire exceptionnels de la région, loin des circuits touristiques.
Merci Béatrice. Et je précise que c'est un article paru dans le journal Le Monde. Nous avons sorti un extrait, évidemment. Et après avoir lu cet article, ça donne envie de partir au Mexique. Et j'espère que nos auditeurs vont être envie aussi de partir pour ce voyage au Mexique. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos. Et à la technique, merci à Antoine d'assister à la visite de Sylvie. Muchas gracias, hasta pronto.